Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Ori the Blind Forest, le Metroidvania qui vient de sortir sur Xbox One, Hotline Miami 2, le retour du meurtre en série côté Devolver, Monsieur Fall comme chaque semaine, et on finira par White Knight, survival de chez nous, hein, créé en France et édité par Activision. Et puis voilà, va ce programme, vous connaissez Wello comme des coms, tout ça. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris et un petit nouveau. Donc Corentin Lamy de JV, bonjour Corentin.
Bonjour Erwan.
Et de ZQSD, podcast ZQSD, comment ne pas le citer.
J'ai peur que tu oublies,
je n'oublie jamais. Je n'oublie jamais. Patrick Elio du JDLI, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et donc Franz Durupt, bonjour Franz.
Bonjour Erwan.
Qui est arrivé à Libération, que certains ont peut-être déjà lu sur Gamekult. Tu avais fait des grands papiers sur Gamekult, tu es arrivé à Libération, pas forcément sur le jeu vidéo, mais voilà, je te débauche quand même parce que tu t'y connais, et donc du coup, c'est toi qui a écrit la chronique qui paraîtra vendredi dans Libération de Hotline Miami 2, donc ça tombe bien, nous allons en parler aujourd'hui.
Voilà.
On commence par toi, Corentin, avec du Kickstarter.
Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'un silence on joue sans une news Kickstarter, vraiment un silence on joue.
Alors il y a ceux qui fonctionnent ou ceux qui fonctionnent pas. On a bien aussi parlé des Kickstarter qui se
plantent. C'est toi ça.
Ça c'est ma spécialité.
Ouais. Il est un peu trop tôt pour le savoir, il s'agit du Kickstarter de Too Jam on Earl 4. Alors, son nom, il s'appelle Too Jam on Earl Back in the Groove. Donc c'est le quatrième épisode d'une série qui a commencé sur Mega Drive en
90, comme univers.
Moi j'étais vraiment gamin, je crois que c'est mon jeu 16 bits préféré. C'est un jeu pour ceux qui n'ont pas connu ça, où on incarnait deux extraterrestres qui devaient retraverser un monde, qui était la Terre d'ailleurs, mais une sorte de Terre complètement délirante, très comics 90 justement. Pour reconstituer leur vaisseau. Et donc il y a eu ensuite des suites sur Mega Drive qui n'avaient rien à voir, une suite sur Xbox qui n'avait pas grand chose à voir non plus, et ensuite les développeurs ont complètement disparu de la circulation, ce qui est un peu injuste quand on sait que Too Jam on Earl, je crois que le jeu est sorti quelques semaines avant Sonic ou quelques semaines après, et je sais qu'il était question qu'à un moment donné que ça soit un peu les mascottes de Sega, ça s'est pas fait, et autant Sonic, on se rappelle évidemment de Sonic, même
a connu la postérité,
mais parfois un peu injustifié. Too Jam on Earl a complètement sombré un peu dans l'oubli, et donc les mecs sont revenus, ils ont jamais perdu le contrôle de la licence, ils sont revenus sur Kickstarter il y a deux semaines, avec un projet vraiment de jeu de retour aux sources. Et là, ils ont récolté, je crois qu'ils sont à 55% au bout de deux semaines, au bout de 50% de leur temps. C'est pas forcément très bon signe parce que, enfin, a priori, comme ça, on pourrait croire que c'est bien parti, sauf qu'en général, on cartonne beaucoup plus au début qu'à la fin.
Alors, non, on cartonne au début et à la fin. Mais en fait,
il faut qu'il y a un phénomène d'accélération.
Généralement, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut atteindre les 30% sur les 4 premiers jours. Après, ça stagne ou ça avance petit à petit. Et puis, il y a les 30 derniers pourcents qui peuvent arriver dans les derniers 24 heures. Mais voilà, il faut atteindre 30% dans les 3 premiers jours, atteindre les 70% avant la fin. Et puis, après, tu cartonnes sur la fin.
J'espère pour eux qu'ils l'atteindront. Après, ils sont arrivés. J'ai l'impression qu'ils ont tiré un nombre de balles dans le pied incalculable parce qu'ils sont arrivés déjà avec une vidéo débile qui faisait avec une sorte d'accent suédois, écossais. Bon, c'est pas pourquoi. Hein, les mecs sont. Ils sont quoi d'ailleurs? Ils sont américains. Ils ont continué avec les graphismes étaient hideux. En fait, ils ont fait une erreur étrange que les gens faisaient au début et que finalement est tout à leur honneur, c'est qu'ils ont montré un prototype. Ils ont essayé de faire financer un prototype. Or maintenant ça marche plus sur Kickstarter. Maintenant, il faut arriver avec un jeu qui est fini à 99,9% et dire juste oh j'ai besoin de 3 milliards de dollars pour terminer juste le dernier.
Ce qui est une aberration quand même.
Oui,
quand on y pense, c'est une aberration.
Oui,
ou alors juste des concepts vagues, des concept art, mais qui voilà, pas, mais pas faut... le prototype sous Unity. Le prototype sous Unity, c'est pas la peine. Il y a des gens, en fait, si t'as une licence assez connue ou si t'as un nom assez connu, tu peux te permettre de réussir juste sur des concept art.
Ce qui n'est pas exactement leur cas. Enfin, leur nom, personne ne les connaît. Leur jeu, il y a malgré tout un petit peu oublié à part par moi. Mais donc, voilà. Donc, j'aimerais bien quand même qu'ils réussissent, même si ce qu'ils montrent est moche. Mais encore une fois, c'est un prototype. Donc, j'espère qu'ils vont réussir à aller au bout et montrer un truc un peu plus abouti. En plus, d'autant qu'on dit souvent que c'est un jeu qui est très 90, très daté. Mais alors en fait, moi, je trouve que c'est un jeu qui était au contraire assez moderne pour l'époque parce que c'était une sorte de roguelike avant l'heure où il y avait déjà des éléments, des niveaux génératoirement, la mort permanente, tout ça. Moi, je trouve que si c'est fait intelligemment, ce qui n'est pas gagné vu que les mecs n'ont pas fait de jeu depuis 2002, donc ils sont peut-être un peu à la rue. Mais si c'est fait intelligemment, ça peut être au contraire hyper moderne, hyper intéressant. Donc voilà, j'espère, je croise un peu les deux.
Tu as backé donc.
Je devrais pas le dire, mais oui. Pour avoir un mug.
Mon pauvre, je te plains parce que je sais ce que c'est les Kickstarter qui te touchent au niveau affect. Moi, j'ai connu ça avec CinemaWare. Et enfin, c'est voilà, quand on a un Kickstarter comme ça qu'on a envie de suivre, et bon, c'est pas toujours facile d'affronter ce qui se passe.
Franz, des nouvelles du côté Naughty Dog.
Alors oui, effectivement, Naughty Dog vient d'annoncer, enfin Sony vient d'annoncer que Uncharted 4, donc le fameux jeu de Naughty Dog qui devait faire les grands jours de Noël sur PS4 sera reporté donc à 2016. Enfin, il est reporté à 2016.
Tout ça parce que The Order a trop bien marché, c'est ça?
Sans doute. Parce qu'il était trop bien et qu'ils se sont dit c'est pas possible de faire mieux en 2015, donc on va attendre tranquillement le printemps 2016.
Ah merde. Voilà. C'était prometteur quand même. Enfin non, en fait, ici autour de la table, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout d'Uncharted 4, mais bon, c'est pas grave.
Peut-être que le studio bosse aussi sur Last of Us, enfin sur une suite potentielle. Enfin, il y a pas mal de rumeurs sur une suite qui serait en chantier.
Après, c'est vrai aussi qu'il y a eu pas mal de mouvements à Naughty Dog les derniers mois. Il y a des gens qui sont partis, et donc j'imagine que ça a dû jouer aussi sur le développement. Quoi.
Donc Uncharted 4, pas avant 2016. C'est quand même très étrange de rater le Noël 2015 comme ça.
C'est un peu dur,
ils ont peut-être un autre blockbuster.
Ou alors Raider 2 de toute façon, il suffira de. Je pense qu'en plissant un peu les yeux comme ça, on pourra presque avoir l'impression que c'est Uncharted 4.
Il n'est pas Xbox, il est en prio
Xbox.
Il sera sur PS4 sûrement l'année d'après.
Je pense que c'est un coup de fair play de la part de Sony pour que la Xbox rattrape un petit peu son retard sur ce Noël. Non, vous ne pensez pas?
On peut voir ça comme ça.
On
peut se tromper aussi.
D'ici là, ils auront peut-être le temps à l'E3 quand même de montrer des trucs un peu surprenants.
J'espère bien. Il est temps, bordel. Non mais sérieux, j'ai envie moi de jouer à mes consoles next-gen. J'ai envie mais je peux pas. Patrick, j'ose même pas dire le thème quoi. Rétro là, mais
c'est un petit peu vague. Non, mais
j'ai l'impression de faire un pléonasme des fois.
On a commencé dans les années 90, on y reste. Alors moi, je vais juste commencer par une vérité glaçante moi qui m'a jailli au visage. Quelques jours, c'est que Loom a 25 ans, un quart de siècle. Voilà, bah les mots sont là, il faut le dire. Il a un quart de siècle, ce jeu. Moi, je me rappelle encore de sa sortie. On parle d'un jeu qui était sorti chez LucasArts. Non, pardon, c'était pas LucasArts, c'était encore Lucasfilm Games. C'était vraiment les tout débuts. 90, c'est peut-être l'année du pic chez Lucas, parce qu'on a Monkey Island qui sort, Loom, ce jeu point and click.
Remets-le, parce que moi, j'arrive pas.
C'était le jeu musical. Rappelle-toi, avec une logique de son, toutes les énigmes étaient portées par la musique.
Ah ouais, non.
Il est un peu moins connu. C'est vrai que c'est pas une tête d'affiche de Lucas et c'est bien dommage parce que c'est finalement c'est une de ces pépites qui a les mieux vieilli de l'époque et c'était vraiment un titre hyper original. Lou, mais tous ceux qui s'y ont essayé à l'époque n'ont pas pu l'oublier. C'était alors, vraiment un jeu unique.
Moi, le truc dont je me souviens surtout de l'époque de Loom, c'est que quand tu jouais à Monkey Island au début, t'avais un pirate dans, dans la taverne qui faisait une pub pour Loom.
Et il jouait beaucoup avec ça à l'époque,
c'est vrai.
D'avoir des renvois.
Ah non,
mais
là,
oui,
ça me dit quelque chose.
Ça faisait aussi partie de ces. C'est comment Lucas a créé cet univers, comme tu dis, c'est ça, avec ses renvois réciproques d'un jeu à l'autre. Et on sentait qu'il y avait un univers Lucas, en tout cas Lucasfilm Games à l'époque. Pourquoi je vous parle de Loom et de ses 25 ans aujourd'hui?
Oui, parce
et
que là... alors, je vais juste faire une parenthèse, parce que si on revient 25 ans en arrière, là, on est au début des années 90, on et est oui, en 1990. Déjà, oui. Mmh. Patrick, si tu nous fais les 25 ans de tous les jeux, on n'est pas sorti quand même.
Non, mais il faut marquer le coup. Quart de siècle, quand même, c'est pas rien. Ouais, et en tout cas, non, mais en plus de ces jeux-là, de ce titre-là en particulier, qui a très très bien vieilli. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que justement, dans le cadre de ce quart de siècle, ça m'arrache la gorge à chaque fois que je le dis, ça fait bizarre, pardon. En fait, son créateur, Brian Moriarty, donc un ancien de Lucas, était sur la GDC, sur le salon GDC de San Francisco. Il y a souvent comme ça ces post-mortem dans le cadre de la GDC, c'est toujours passionnant.
Qu'on retrouve généralement sur Gamma Sutra, In Extenso.
Ouais, exactement, qui arrive, ou après on les retrouve en vidéo sur YouTube, on peut consulter comme ça des archives et c'est toujours passionnant parce qu'en général sur une heure ou un peu plus, on a des game designers qui se penchent mais vraiment sans aucune comment dire, ils se penchent vraiment de tout leur cœur sur leur jeu d'il y a quelques années et vraiment ils disent ce qui marchait pas, ce qui marchait bien et donc ce Brian Moriarty s'est penché sur Loom 25 ans après. Alors c'est plutôt amusant hein.
Je crois que l'année dernière la GDC, il y avait Ron Gilbert, non,
il y avait toute l'équipe LucasArts, il y avait un énorme post-mortem LucasArts qui est passionnant, qu'il faut absolument voir, avec des échanges entre David Fox,
GDC 2014,
David Fox, de Zach McCracken, Ron Gilbert, Noah Folstein aussi, qui était un des grands du studio, enfin tous ces gens-là étaient sur le même plateau à discuter, c'est historique. Et donc cette année, donc Moriarty a parlé de Loom. Alors c'est plutôt intéressant parce qu'il a dit qu'il l'avait relancé là, qu'il n'avait pas touché depuis longtemps, donc qu'il y avait joué, etc. Et c'est là où ça peut intéresser nos auditeurs d'aujourd'hui qui ont tout intérêt à se remémorer un petit peu ce qu'était Loom, puisque très longtemps on a parlé de suites potentielles, ça ne s'est pas fait. On sait que voilà, Lucas a exploré d'autres genres, bien malheureusement que le jeu d'aventure, mais très très longtemps il y a eu un peu cette rumeur que des suites avaient été envisagées. On a même parlé à un moment d'une trilogie qui avait été tout de suite pensée, et a priori non, c'était pas une trilogie, mais dans la foulée de la sortie du jeu, des suites avaient été très vite imaginez, ça ne s'est pas fait. Et Moriarty revient sur le sujet et il lance cette phrase qui est loin d'être anodine, où il dit « Oui, j'aimerais qu'on fasse une suite ». Et là, il cite trois studios de développement qui, pour lui, auraient ses faveurs pour créer une suite. Alors, il pense tout de suite à Telltale, évidemment. Telltale, on en parle quasiment toutes les semaines en ce moment. Hein. Et d'ailleurs, il dit justement, en ayant rejoué à Loom récemment, il a cette phrase que j'ai notée. Oui, c'est vrai que le jeu est finalement assez court à jouer quand on le voit, quand on le compare à d'autres titres du genre de l'époque. Mais finalement, c'est normal, c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Et il cite directement Telltale. Et finalement, pour lui, Loom, c'est une expérience qui n'est pas si loin de Telltale.
Donc, vous pouvez mettre 10 ans à finir ces jeux aussi, parce que c'était tellement dur aussi, des fois, et tellement tiré par les cheveux. Que...
Ah, ben, c'était la culture Lucas qui voulait ça. Mais Loom était un cas assez particulier, donc il parle de Telltale, il parle de Double Fine, évidemment, et là il y a un lien de parenté, évidemment, Tim Schafer, etc.
Forcément.
Et il cite aussi Wadjet Eye. Alors Wadjet Eye, c'est un studio indé dont j'ai déjà parlé ici, c'est le studio de Dave Gilbert, qui lui fait des jeux point and click vraiment à l'ancienne, très pixelisé, à l'ancienne, quoi, vraiment avec le moteur AGS, qui est vraiment basé sur un moteur old school de l'époque. Et lui, vraiment, c'est toute la série Blackwell, que j'avais déjà très, très rapidement évoqué ici, mais qui est une excellente série avec un couple de personnages, une héroïne qui a des dons de voyance et qui collabore avec un fantôme, qui vivent des aventures ensemble. C'est vraiment une très, très bonne série qui fait vraiment référence sur la nouvelle scène indépendante du jeu d'aventure. Et donc c'est intéressant de voir que Moriarty cite ces trois studios et qu'il ouvre clairement la porte à éventuellement revoir Loom sous une forme ou une autre. Et voilà, ça va être une affaire à suivre.
Est-ce que ça marcherait sur Kickstarter?
Bah écoute, sur le point and click, en tout cas sur 2012, il y a eu une année en or pour le point and click. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé sur le genre. Mais en tout cas, il y a eu une année 2012 de folie où tout ce qui était lancé quasiment fonctionnait, notamment lorsqu'il y avait un nom connu derrière.
C'est vrai.
Et Moriarty, voilà, c'est un nom connu avec Loom. Puis c'est quelqu'un qui avait bossé chez Infocom avant, voilà, qui a tout un historique du jeu d'aventure. Je pense qu'il pourrait tenter l'aventure, mais En tout cas, il a plutôt, a priori, envie de donner ça, de confier les rênes de cet éventuel projet à un studio déjà bien implanté.
Le com des coms de la semaine dernière, où nous parlions de l'excellent The Order 1886. Je rigole. Alien San qui commence, j'aimerais réagir sur The Order, pas sur la polémique sur la durée de vie qui me touche pas du tout, mais sur plusieurs points. Le premier est le choix du gameplay, en partant du principe qu'ils ont voulu... Ils ont voulu faire un film interactif. Pourquoi avoir choisi un TPS avec du couloir et aucun choix? Ce qui fait la richesse d'un Life is Strange ou d'un Walking Dead, c'est l'impression d'avoir le choix et d'orienter ce contenu interactif. Ici, il n'y a rien, juste des couloirs. Secondo, le TPS bas de plafond sans aucune évolution. On est retourné à l'époque du premier Gears of War. Depuis, ce genre a vachement évolué avec la plupart du temps un système de progression intéressant autour des personnages. XP, plus de vie, etc. Tertio, ouais. Un TPS sans le point fort des TPS. Resident Evil 5, on a parlé, je crois, de Resident Evil 5, mais celui-ci au moins avait plein de boss impressionnants. Ici,
les boss de Resident Evil 5,
bah, je sais pas. Vas-y. Ne dénigre pas
je réagis, on est là pour ça.
Ici, on n'a qu'un boss et demi, et pour finir, la flemme des développeurs, on se retrouve avec plusieurs situations qui se répètent. Coucou, les trois loups-garous en embuscade qu'on se tape trois fois dans le jeu. Cela montre qu'ils ont passé 90% de leur temps sur le moteur et ils ont oublié un petit peu d'en faire un jeu. Voilà, je suis vraiment déçu car l'univers me plaisait, même s'ils font un gros effort sur le 2, ce sera sans moi. Shanghai Max a un avis un peu contraire qui dit concernant The Order, la carte postale vivante d'un Londres rétro-futuriste a bien fonctionné chez moi du début à la fin. En jouant, je ne demandais rien de plus au jeu que ce qu'il a proposé. Ses limites imposées apparaissent très rapidement. Le nom de Gears of War revient tout le temps, d'accord, c'est un cover shooter, mais pour le coup, il n'y a quand même pas que l'aspect mécanique d'un jeu à prendre en compte. L'univers Marines à la mâchoire carrée ne me parle pas du tout, par exemple, donc ça ne me viendrait pas à l'idée de comparer les deux titres. Je ne l'ai pas vécu comme un film interactif, plutôt comme une histoire simple à jouer qui se déroule dans un cadre juste sublime, un peu comme Remember Me. Je vous rejoins sur le twist qui m'a déçu et sur l'aspect infiltration un peu bof. Sur le reste, je suis beaucoup moins catégorique et j'espère bien qu'il y aura un The Order 1885 ou 1887. Pas moi.
1985, ça pourrait être une piste.
Et enfin, Zali Falcon qui dit tout à fait d'accord pour cette horrible tendance à mettre du marronasse partout. C'est insupportable. Que quelques jeux reprennent ces codes de couleurs, pas de soucis, mais quand tous les titres AAA se mettent à avoir la même DA, c'est chiant. Des tas de jeux ont montré qu'on pouvait tout à fait prendre des risques en termes de style ou de design sans que ça braque les gens. Mass Effect avec son rendu violet rétro, surtout le premier, The Wolf Among Us avec un côté psychédélique livre pour enfants, et même Bioshock Infinite avec ses nuages, son marbre et ses étendues de ciel ça tentait des trucs. Et c'est vrai que pour le coup, Bioshock Infinite était
Il était flashy,
visuellement
quoi. Il avait un côté,
c'était plutôt intéressant. Marre du gris industriel dégueu, on a l'impression que la moitié des titres triple A se passe dans un dimanche de pluie à Sarreguemines. Voilà, c'était le...
C'est dit.
Mais ouais, mais je suis assez d'accord. Hein.
Je pourrais pas dire, je connais mal Sarreguemines, mais bon, après, c'est peut-être vrai.
Non, mais le marron.
Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai.
Non, sérieux, le marron des triple A, c'est un problème quand même.
Heureusement qu'on va parler d'Hotline Miami, où j'y crois, j'ai pas vu un seul pixel marron de tout le jeu, donc voilà.
Et c'est pas sûr qu'il y en ait, ouais.
On va en parler, mais d'abord, on va parler de Ori the Blind Forest. Que c'est joli ce Ori the Blind Forest. En tout cas, c'est on sent que le côté marketing entre guillemets de Microsoft a vachement appuyé sur ce point-là. Et c'est vrai que c'est très très beau. Ori the Blind Forest, c'est à télécharger sur Xbox One et c'est un platformer, un Metroidvania. Patrick, tu as essayé petite quelques mise en main, voilà, quelques heures. Des en même temps, sur un Metroidvania, bon, je pense qu'on va assez vite.
On cerne vite. Alors, effectivement, comme tu disais, c'est un peu présenté comme le petit bijou indé du moment sur Xbox One, qui est sur PC aussi. Je crois qu'il arrive sur PC dans la foulée, et 360 un peu plus tard, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc ça, c'était pour situer. Donc, comme tu disais, on est vraiment sur le Metroidvania typique. C'est-à-dire, pour situer en quelques mots, donc on incarne un caractère, on se déplace dans des pertes.
Un caractère.
Un personnage.
Pas mal.
Un personnage. On se déplace dans des niveaux et des niveaux où certains accès nous sont inaccessibles. Récurrence, pardon, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc on a voilà, des accès qu'on peut pas, on peut pas atteindre tout de suite. Et en fait, c'est en acquérant des facultés, des pouvoirs au fil de l'aventure qu'on peut accéder à de nouveaux endroits du niveau et puis débloquer des passages, etc.
L'aspect voilà, typique, c'est il y a un truc en haut d'un niveau.
On le voit, on saute, on essaie pendant une demi-heure.
Et en attendant, il faut attendre d'avoir le double ou le triple saut pour atteindre cet endroit-là.
On essaye pendant une demi-heure de sauter en tous les sens et on se rend compte au bout d'un moment, parce qu'on a quelques années de jeux vidéo, on se dit bah non, on va revenir quand on aura le bon truc. Alors tout de suite, ce qui frappe quand on lance Ori, bah, c'est le look, c'est la réalisation, c'est ce qui frappe immédiatement lorsqu'on lance le jeu.
Ça m'a fait tout de suite penser à Child of Light.
Alors effectivement, il y a un côté, j'avais noté effectivement le côté très cartoon, très c'est super beau. Enfin moi ça m'a, il y a un visuel vraiment vraiment marquant tout de suite. Bah, ça m'a rappelé, alors, je ne pense pas qu'à mes vieux jeux, mais ça m'a rappelé lorsque j'avais lancé Shadow of the Beast sur Amiga la première fois, où j'avais lancé le jeu, etc. Et j'avais été halluciné par les scrolling parallaxe. À l'époque, c'était, il y en avait 8, je crois, sur. Et il y a un peu de ça quand on lance Ori, c'est qu'on est tout de suite surpris par le cachet du graphisme. C'est super beau. Et il y a beaucoup de jeux sur les profondeurs. C'est un jeu tout en profondeur au niveau du look. Il se passe toujours des choses au fond. Le fond est tout le temps animé.
Même au premier plan, d'ailleurs.
Et exactement. Et au premier plan, on a souvent des jaillissements de personnages, voilà, qui arrivent. Donc voilà, ça, c'est pour parler un peu de l'esthétique. C'est très, voilà, c'est très, très joli. Et alors le jeu, moi, je trouve qu'il m'a tout de suite pris dans le. On sent qu'il y a une vraie fibre. L'introduction du jeu, on va peut-être pas trop spoiler non plus, mais ça commence par une tragédie. On incarne une petite créature qui vit tout de suite une tragédie, qui se retrouve un petit peu projetée toute seule dans un univers qui devient hostile. Et qui se retrouve donc sans pouvoir, sans rien, et qui va, Metroidvania, la logique Metroidvania oblige, va devoir reconquérir ses pouvoirs et peu à peu explorer un univers qui est très très tarabiscoté. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu en quelques heures de jeu, c'est que pour moi, le jeu se définit, dans ce que j'ai pu en voir, par le côté assez labyrinthesque des niveaux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se repérer. On est vraiment, c'est une famille dans les Metroidvania, et certains qui vont jouer vraiment sur l'acquisition de pouvoirs, etc. Là, pour moi, vraiment, c'était le repérage dans les niveaux. J'ai un peu galéré au début pour me repérer, et je trouve que les niveaux sont assez. Il faut vraiment, voilà, on est sur de l'exploration, il faut vite se repérer, et voilà. Et donc, comme je disais, pour moi, il y a vraiment un look, il y a une
le look, c'est très très Miyazaki aussi. Enfin, il y a des personnages comme ça qu'on voit qui semblent tout droit venus de.
Rien que le premier personnage qu'on voit du jeu, en fait, je trouve que c'est assez évident. J'ai pas retenu son nom, mais
oui, notre
personnage masqué,
c'est Chihiro, quoi. Enfin,
carrément.
Avant que voilà que le pire arrive et qu'on soit un peu livré à nous-mêmes et donc voilà donc les graphismes sont jolis, il y a une super musique aussi. Alors moi j'ai appris que donc ce Moon Studio, c'est les gens qui ont créé ce jeu. A priori c'est des anciens du jeu vidéo qui connaissent bien l'industrie, et donc ce serait une vingtaine de personnes d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors ce qui est hallucinant, c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, ils ont bossé non pas dans un studio physique, mais ils ont bossé chacun de leur côté aux quatre coins du monde. Ce qui est dingue, c'est quand on joue, ça transpirait à aucun moment à l'écran. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie consistance quand je parle d'épaisseur du jeu. Je trouve qu'on sent qu'il y a une imbrication entre la musique, l'atmosphère, le gameplay, le level design, ce côté labyrinthique.
Ce sera un studio virtuel qui s'est fait sur Skype.
Non, peut-être pas jusque là, mais en tout cas, visiblement, ils ont beaucoup travaillé à distance et ça se sent pas du tout. Enfin, je trouve qu'au contraire, il y a une cohérence dans le jeu qui est assez impressionnante justement. Je trouve qu'il a une épaisseur et voilà, en tout cas quelques premières heures qui sont vraiment vraiment attachantes. C'est un jeu attachant.
Corentin aussi, des premières impressions
Oui, c'est vraiment des premières impressions, parce que je l'ai lancé ce matin, parce que j'étais sur de l'anime jusqu'à 5h du matin, parce que je ne joue plus qu'à ça.
Passer de l'un à l'autre doit être assez
Ah, ça fait du bien, en fait, paradoxalement. ça fait plutôt du bien, ça repose un peu,
un vent d'air frais, quoi.
Non, déjà c'est vrai que c'est très très beau. Moi, en fait, je pense que c'est une question de génération, chacun ses références. Moi, ça m'a rappelé Earth of Darkness dans les années 90.
Oui, non mais c'est clair,
ça m'a, dans le côté côté dessin animé, dans le côté dessin
question
animé.
Quelle génération, en fait. Qu'insinues-tu par là J'ai joué à Arthur Darkness. Non, mais non, je suis tout à fait d'accord sur
le côté vraiment dessin animé jouable. Quoi. C'est vrai que c'est un des jeux, je pense, les plus beaux, en tout cas les plus charmants graphiquement. C'est vrai que c'est un fou pas plein yeux, c'est pas The Order, mais c'est vraiment d'un goût.
Mais c'est pas marron.
C'est pas marron, c'est bleuté sombre, mais bon, après, il faut aimer. Non, mais c'est vrai que je savais pas, donc ça a été développé comme ça par des sortes de studios décentralisés. C'est vrai que ça se ressent pas du tout parce que le jeu je trouve que par rapport à des Metroidvania, notamment les Castlevania ou ce genre de choses où tu galères vraiment, là le tout est extrêmement organique. Même ça se passe dans une forêt, donc c'est fatalement organique. Même les ennemis sont organiques parce que je trouve que ça, c'est un truc qui m'a un peu gêné. C'est à dire que les monstres, quand ils tirent, tu balances des épines, on sait pas trop où ils tirent. Il y a une gestion de la physique qui m'a parfois un tout petit peu désarçonné, mais même au niveau du level design, c'est extrêmement organique, c'est très naturel en fait. T'avances là-dedans, tu te perds pas tant que ça, surtout que la carte est quand même bien fichue. Tu débloques pas mal d'items qui vont essayer de t'aider sans trop non plus gâcher la difficulté, parce que c'est pas évident.
Pas évident. Et en plus, moi au début, j'ai eu un peu de mal avec le système de tir. Je sais pas si t'as noté aussi. En fait, on n'a pas un tir direct. C'est-à-dire qu'on est accompagné par une espèce d'entité qui nous suit, en fait, qui est autour de nous, qui gravite, et c'est elle qui tire. C'est-à-dire que on a une sorte de tir déporté qui target lorsqu'on est proche d'un ennemi. Alors je sais pas si je suis clair. Qui vise l'ennemi le plus proche, en gros, pour faire simple. Ouais. Évidemment, tout ça évolue parce qu'on a un arbre de compétences, de caractéristiques qu'on fait évoluer, de pouvoirs qui font aussi qu'on attrape plus facilement les orbes pour évoluer, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a ce tir assez original qui fait que ça permet aussi de s'écarter de tous les poncifs du genre où on connaît par cœur le Metroidvania avec le tir, etc. C'est une petite originalité au fait, ce tir qui est un petit peu déporté, un petit peu.
Il y a pas mal de petits trucs un peu originaux comme ça, notamment le côté de la gestion de la sauvegarde. Au début, je suis mort tellement de fois en recommençant.
J'ai un peu galéré au début, après
un quart d'heure avant, et en fait, parce qu'en fait, le sort, c'est la sauvegarde, c'est un sort. Et donc tu poses tes points de sauvegarde comme tu les jettes un sort,
foutu,
et donc ça bouffe ta jauge. Et au début, toutes ces jauges, je trouvais ça un peu étrange. Et en fait, c'est vraiment dans le délire, encore une fois, organique, un peu du truc.
On gère sa sauvegarde.
Mais alors, ce qui est marrant, c'est que Ori, quand on voit les premières images, quand on a vu le trailer, tout ça. On a une sorte de première impression de jeu mignon, jeu joli, jeu mignon. En plus le héros, enfin la petite créature qui sert de héros, voilà, c'est un personnage de dessin animé limite grogné, enfin c'est un truc assez sympa, et en fait ça a l'air assez hardcore, en fait
c'est assez hardcore, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est mignon. Et je me rappelle, je crois c'était à l'E3 qu'il avait été montré, je crois, pour la première fois, dans une indifférence assez générale, en fait, parce que je crois qu'ils ont balancé l'image en 30 secondes et je me rappelle, dans tous les comptes rendus de l'E3, c'était vraiment tout en bas de la page, les gens s'en foutaient un petit peu. Et alors que finalement, moi, c'est la première fois que je joue à un jeu Xbox One. Enfin, c'est la première fois que je dis, c'est cool.
Ce qui est une information en soi.
Mais donc, en plus, j'étais très fier parce que j'ai réussi à allumer la Xbox One de la rédac du premier coup sans chercher le bouton.
Bah écoute, moi j'ai eu un problème parce que je n'ai pas pu y jouer pour la simple et bonne raison que j'avais prévu d'y jouer hier. Et ça fait juste 2 mois que je n'avais pas allumé ma Xbox One.
Donc tu n'as pas réussi à trouver le bouton.
Je l'ai allumé. Et puis, au moment où je suis allé me coucher, la mise à jour était à 52%.
Ah là là là.
Donc voilà.
Tu y joueras ce soir.
C'est pas évident. C'est beaucoup moins évident. C'est plus un jeu pour gamer que.
Et très vite,
core gamer que ce qu'on pourrait penser.
Moi, j'ai ressenti très vite, c'est dans le level design que je disais est assez tortueux. Et moi, j'ai un petit peu galéré dès le début, en fait.
C'est une question de génération encore.
Peut-être, non, mais j'assume complètement.
Je vais me faire taper avant la fin de l'émission.
Ori the Blind Forest sur Xbox One, peut-être et bientôt sur PC. Donc, il n'est pas sorti encore sur PC.
Mais c'est imminent, je crois.
Et maintenant, on se souvient, c'était en 2012, si je ne m'abuse.
Octobre
2012, c'était la bande originale de l'année, au moins. C'était le jeu indé qui a un peu surpris tout le monde, pris tout le monde de court, avec son tueur à gages, et puis son rythme frénétique, ses morts à répétition, et voilà, c'était Hotline Miami, et le deuxième est attendu lui aussi depuis bien longtemps et vient tout juste de sortir. We'll be right back. Hotline Miami 2. Allez, je suis pas trop salaud, Franz, je vais pas te demander de raconter le scénario, on parlera du scénario quand même, scénario, mais je sais que tu étais assez accro au premier Hotline Miami.
Oui, j'avais beaucoup aimé, après je suis pas un hardcore gamer de Hotline Miami, je suis pas comme les gens qui se promènent partout et qui disent ouais, je torche Hotline Miami, machin et tout.
En 8 minutes et demie, voilà, non, c'est pas ça. Mais donc quand même, tu t'es jeté assez avidement sur ce premier, sur ce deuxième numéro.
Oui, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. D'ailleurs, j'étais un peu surpris, vu la rapidité avec laquelle était sorti le premier, j'étais surpris qu'il faille 2 ans pour faire une suite. Donc je me disais, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pendant 2 ans, qu'est-ce qu'ils peuvent bien tramer. Et effectivement, c'est vrai que quand on fait le jeu, on se dit que le premier était une démo du deuxième, quoi, en gros. Hein. C'est-à-dire que c'est l'impression que j'ai eue, en tout cas en y jouant, en termes de quantité de niveaux, mais aussi dans la conception des niveaux et dans les variétés de situations. Je trouve qu'on passe vraiment à un cap supérieur, très très net, notamment sur tout l'aspect stratégie qui faisait partie du premier, mais qui n'était pas forcément plus élaboré que ça. Là, il y a vraiment des niveaux où il faut vraiment très bien réfléchir, très bien organiser sa tactique, son approche pour tuer les gens, etc.
Est-ce qu'il y avait de la tactique dans le premier Hotline Miami?
Tout à fait, oui. C'était un jeu très tactique. Parce
c'est pour ça que je ne suis pas allé très loin.
Tu vas pas loin.
C'était du die and retry et on ajustait à chaque fois ses tirs au millimètre près, au pixel près.
Ah oui, mais moi je fonçais toujours dans le
mental.
En fait.
C'est un jeu de... T'as vu le niveau 2 ou...
Ouais, si, mais il y avait un côté où je. En fait, j'apprenais une sorte de chorégraphie, mais où on fonçait dans le tas, sauf que tu tirais au bon moment,
c'est-à-dire qu'il y a différentes approches, parce qu'effectivement il y a cet aspect chorégraphique qui est vraiment, je trouve, le cœur du jeu, qui est vraiment ce qui est plaisant dedans. Et c'est vrai que là, il y a eu un moment, par exemple, dans un niveau, bon, alors on retrouve le masque Tony qui était dans le premier, à mon avis, le masque le plus jouissif, où celui où on se bat à main nue, on tue tout le monde à main nue. Bon, alors là, ils l'ont radicalisé dans le deuxième, on ne peut plus utiliser d'armes, donc on est vraiment obligé de tout faire au point. Mais du coup, il y a des niveaux qui sont conçus pour ce masque aussi. Et il y a eu un moment dans un niveau où on arrive et il y a 10 bonshommes qui arrivent autour. Et là, on ne sait plus ce qu'on fait, en fait. Hein. C'est vraiment l'arcade pure. On ne sait plus ce qu'on fait avec ses doigts. On tourne le joystick. Enfin, moi, je joue à la manette. Des gens se moquent, mais je joue à la manette.
Je ne reconnais pas.
Et donc, je tourne le joystick comme un zinzin pendant une demi-seconde et tout le monde est tombé autour de moi. Et là,
c'est
un frisson extraordinaire quand on joue et qu'on arrive à accomplir ça sans s'en rendre compte.
Et là, tu fais une sauvegarde et puis tu veux plus jamais recommencer.
Je sais pas si tu penses à la même mission que moi, mais moi, il y a une mission où je me suis fait exactement la même réflexion. Il y a un moment donné, j'avais plus l'impression d'être dans un jeu, j'ai l'impression d'être devant une sorte de film de kung-fu hyper hardcore quoi. Où effectivement, c'est une mission où on se battait avec ses poings. Et il y a un moment donné, t'es tellement pris. En fait, il y a une sorte de flux, quoi, de flow, de trucs où t'es. En fait, je le situe à peu près à la moitié du jeu où en fait, j'avais plus l'impression de jouer, j'avais juste l'impression d'être, une sorte de. Ça fait peur un peu ce que je dis.
vas-y, continue.
Non, mais t'interromps pas. Effectivement, il y a une mécanique de flow, quoi, qui se met en place et on est plus juste en train de cliquer sur le bon mec, on est. Il y a un truc qui transcende un peu le joueur.
Le flow dans le jeu vidéo, c'est des sentiments assez connus, notamment sur les jeux de course ultra rapides où on finit par jouer à l'intuition plus que en fonction des images qui nous viennent et que le cerveau analyse pour retranscrire. Là, on a l'impression que les images vont directement des yeux aux mains et c'est là où il y a ce sentiment de flow et on obtient ce genre de choses.
Dans Super Meat Boy, quand tu arrives à faire miraculeusement un niveau que tu as fait 10 millions de fois, une fois que tu vas faire le run parfait, et en fait tu retrouves un peu ça. Je ressens un peu ça dans Hotline Miami.
C'est vrai qu'il y a des fois ça va jusqu'au malaise. Enfin, moi je sais qu'à un moment, là quand j'y jouais, du coup les derniers jours j'ai beaucoup joué, je jouais qu'à ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me souviens très bien hier soir, il y a un moment dans un niveau où je recommençais éternellement parce qu'il y a des nouveaux types d'ennemis qui sont particulièrement pénibles. Je vais essayer de pas trop déflorer, mais enfin ils foncent sur nous en nous étranglant et ils sont très compliqués à gérer. Et il y avait un niveau où j'essayais désespérément, je recommençais. Il y a un moment, en fait, on s'enferme dans des erreurs aussi, parfois. C'est infernal. Il y a un geste qui a marché, on essaye de le refaire au début du niveau, et puis il marche plus, et après on le refait 10 fois sans qu'il marche. Et à un moment, on réfléchit plus à ce qu'on fait. Et à un moment, on se réveille en se disant, mais t'es en train de faire, ça fait 15 fois que tu fais le truc qui marche pas, et tu ne réfléchis pas, quoi.
Et
tu deviens fou, ouais. Mais... Et à un moment, j'ai cru que j'allais vraiment lâcher la manette, mais pas de désespoir, mais de... Faut que j'arrête, quoi.
C'est comme un rapport particulier au die and retry quand on y pense, à ce côté d'apprendre par, comme tu dis, de faire des erreurs et de répéter les erreurs et de finalement s'en rendre compte. C'est super intéressant, je trouve, le rapport au.
Moi, je trouve qu'il y a un côté, ça va pas paraître être un compliment, et pourtant, je pense que c'est vraiment la force du jeu, c'est qu'il y a un côté complètement abrutissant dans ce jeu, que tu vas recommencer 10, 20, 100 fois un niveau, avec la musique qui bastonne, qui est quand même assez violente, avec les représentations graphiques du jeu qui est très violent, sans même parler du sang, rien que la caméra qui tangue en permanence, c'est quand même hyper brut de découvrage, des énormes pixels tous plus flashy les uns que les autres. Il y a un côté dans ce jeu tu finis un niveau, parfois t'es un peu sur les rotules, quoi. Mais en même temps, c'est justement cette répétition qui crée un truc qui est assez unique, quoi, je trouve.
Et donc toi, tes impressions, tu as joué à Hotline Miami, c'est un de tes jeux de chevet.
Pas mal, ouais.
Et voilà, comment est-ce que tu es tombé dans Hotline Miami 2 ?
Comment je suis tombé ?
C'était quoi tes impressions ? C'était une sorte de rencontre avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou vraiment un nouveau truc de...
Bon, fondamentalement, c'est pas très différent. La seule différence vraiment que tu perçois assez vite, c'est que dans Hotline Miami 1, tu jouais donc un perso, même si après il y avait un épilogue avec un deuxième perso qui était un épilogue assez costaud quand même. Mais là, pour le cœur du jeu, tu jouais avec un perso. Et t'avais toute une palette de masques, et les masques te donnaient des compétences particulières qui permettaient d'un peu de varier les approches, tout ça. Là, en fait, tu joues plein de persos différents. Je les avais même notés, je pense que ça va être long de les détailler. Mais
Franz, tu m'as parlé qu'on joue un journaliste à un moment.
Oui, j'ai un journaliste avec le perso le plus minable de tout le jeu.
Lui peut tuer personne. Enfin, si, il peut tuer un peu, mais des fois ça déborde.
En s'acharnant beaucoup, il faut vraiment beaucoup s'acharner pour tuer quelqu'un à terre avec le journaliste.
Mais donc tu joues toute une galerie de personnages, et en fait, certains personnages ont deux, trois masques, certains en ont un seul, pas mal en ont zéro d'ailleurs. Et donc t'as moins ce côté brut de décoffrage, et au bout d'un moment, en fait, tu comprends assez rapidement que c'est parce que le jeu va essayer de te raconter un truc, en fait. C'est que tu vas suivre différents destins qui vont se croiser ou pas, d'ailleurs, parce que même après avoir fini le jeu, t'es pas sûr d'avoir compris exactement ce que t'as traversé, mais t'as différents destins, t'as beaucoup plus de cutscenes, t'as beaucoup plus de phases où t'as pas d'ennemis, en fait, où tu vas faire le flic qui va aller se balader sur une scène de crime ou un truc comme ça. Et en fait, ça paraît être une obsession, mais encore une fois, ce scénario qui n'a quasiment... Je ne dirais pas qu'il n'y a aucun sens, parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont compris. Il faudra qu'on en discute, peut-être que tu as compris, toi, je ne sais pas. Mais...
Moi, je ne comprends aucun jeu auquel je joue, donc encore moins si...
D'accord. Mais entre les liens qu'il y a avec le 1, les liens que les persos ont entre eux, la chronologie du jeu qui se passe entre 85 et 91, et qui est racontée dans un ordre complètement... pas du tout chronologique.
On est dans du David Lynch, quoi. Enfin,
je m'abstiendrai bien d'en parler, vu mes connaissances en cinéma.
Du Gaspard Noé, je pense. Je vois bien lui faire un film sur.
Ouais, effectivement. Mais ça participe, je trouve, justement, à l'entreprise d'abrutissement du joueur, un peu, où t'es complètement perdu. En fait, c'est un truc qui fait appel plus à tes sens qu'à ta réflexion, quoi. Et effectivement, c'est pour moi la vraie différence avec le jeu, c'est son ambition narrative. Qui marche pas forcément. Comme j'ai mon collègue Kevin à la rédac, il déteste ça. Il accroche moyennement au gameplay, mais surtout il déteste la façon qu'a le jeu décide de raconter une histoire, et finalement ne raconte pas grand chose. Et il y a pas mal, c'est PC Gamer qui a fait un papier là-dessus qui est assez cool, même s'il dit l'inverse de ce que je pense, mais c'est assez vrai. C'est-à-dire que le jeu ne raconte pas grand chose, mais il y a quand même un truc qui te, mission après mission, qui participe à une sorte d'abrutissement général où tu t'avances là-dedans, finalement, un peu comme les persos, t'es shooté complètement au jeu, quoi. Et je trouve que c'est assez chouette.
Un scénario hallucinogène, en fait, presque.
Ouais, il faut le refaire, il faut lire les comics, il faut refaire le 1. C'est les comics gratuits sur Steam, assez courts, ils font 10 pages chacun, il y en a 5, qui permettent un peu d'essayer de comprendre des bouts de scénario. Et en fait, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, c'est une sorte d'uchronie, on est un peu dans le genre de maître du haut château de la guerre froide. Enfin, il y a un côté comme ça, qui est une sorte de science-fiction étrange, mais ça, tu peux parfaitement traverser le jeu sans t'en rendre compte du tout. Moi j'avais adoré Lost en série, ça n'a rien à voir, mais j'ai fini Lost et je comprenais rien, et j'allais en discuter avec des potes, j'allais sur les forums pour essayer de comprendre, sur les wiki Lost pour essayer de connecter les trucs, et là j'ai retrouvé ce truc là et pour l'instant j'ai pas encore trouvé la clé, donc peut-être que c'est aussi décevant que Lost au final, mais il y a ce côté quand même qui m'a donné un peu envie de creuser. Je pensais pas faire cette comparaison Lost Hotline Miami en arrivant,
mais très bien. Non,
l'interface est toujours, enfin je me rappelle du premier, elle était complètement saturée, pixelisée, il y avait un jeu que le pixel avec le côté années 80 mais retravaillé, rabâché un peu. On a l'impression d'un rabâchage des années 80 dans le look, dans le pixel saturé.
Ah oui, complètement.
Ça, c'est toujours là.
Par contre,
ils
rabâchent moins les environnements. Les environnements, comme tu disais, sont vachement plus variés. Quoi. T'as des, je sais pas, t'as des rames de métro, t'as des quais de. Tu es sur des ports, des machins. En fait, ça varie vachement plus quand même. Mais
il y a des très beaux passages près de la mer avec des vagues multicolores, ouais. Enfin, des vagues synthétiques, littéralement.
Ouais, t'es en Street of Rage là à ce moment-là. T'es un peu dans, je sais pas, c'est sur la plage en Street of Rage.
Ah, je vois.
Mais est-ce que France avec est-ce qu'un jeu d'action comme ça qui essaye de t'emmener tu sais pas où au niveau du scénario, est-ce qu'on réussit à s'accrocher? C'est juste le gameplay qui permet de s'accrocher dans Hotline Miami. Je sais que pour avoir joué au premier, j'avais non plus. Enfin, à un moment, le premier, tu cherches plus à comprendre. Enfin, ces personnages avec des masques qui te parlent, le téléphone, tu sais pas qui t'appelle, etc. Enfin, y a, à un moment, c'est. Puis de toute façon, en fait, tu finis par faire tellement chaque niveau. Que tu et en fait, tu fais 200 fois chaque niveau et tu vois qu'une seule fois les cutscenes entre chaque. Donc finalement, les cutscenes finissent par être complètement anecdotiques. Et on retrouve ce truc-là, on reste accroché par le jeu quand même.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, c'est vrai qu'au final, bon, moi personnellement, le scénario, généralement, je m'en fiche dans les jeux. Là, à plus forte raison. Mais enfin, il m'intéresse. J'aimerais bien le comprendre, mais c'est vrai qu'après, voilà, je vais pas me tuer l'esprit à essayer de le comprendre. C'est vrai que moi, je pense que ce qui marche vraiment, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans un niveau et qu'on a essayé. Après, on est emmené par la musique aussi, c'est vrai, il faut quand même signaler voilà, la musique qui est très importante.
À un moment, en fait,
moi, je n'ai toujours pas tranché si Hotline Miami est un jeu développé pour sa musique ou si la musique a été choisie pour le jeu, quoi. Parce que je trouve que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la musique qui guide tout le jeu, dans le sens où on lance la partie, on lance le niveau, la musique commence, et c'est comme dans Super Meat Boy, elle s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'on ait quitté le niveau. Donc c'est vrai que même quand on meurt... Il n'y a pas de temps de chargement, la musique ne se coupe pas, donc on est emporté toujours dans le feu de la musique. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on a mis le pied dans un niveau, il n'y a pas de raison d'en sortir, sauf à être désespéré ou de le finir.
D'où l'idée de chorégraphie, qui cadre bien avec une musique lancinante et qui...
C'est vrai.
Qui rythme.
Moi, je finissais par. En fait, j'avais un problème avec le premier Hotline Miami, c'est que j'avais mis la bande originale dans. Je l'écoutais en transport en commun, et quand tu arrives et que tu prends le métro.
T'es un peu énervé.
Et qu'il y a hydrogène, il y a hydrogène qui se lance, alors que tu prends le métro, tu te dis, on va rester calme.
L'œil un peu agressif d'Erwan dans le métro, c'est normal, il écoute.
J'ai ressenti ça aussi quand je me baladais dans la rue en écoutant Perturbateur.
Faut pas t'énerver, quoi.
Je me disais, bon sang, je vais sauter sur les gens.
Non, c'est pas, je ne suis pas armé. Pas trop de risques.
Mais moi, ça m'amène en fait à un truc qui est qu'on a. À Hatred, donc je sais pas si vous vous rappelez, Hatred, c'était un jeu dont on avait parlé il y a 6 mois ou un an parce que c'était un jeu développé déjà par des mecs qu'on nous a quintancé néo-nazis, donc c'est vrai que forcément déjà ça met pas forcément en confiance. Après, à moins que tu sois néo-nazi toi-même, pourquoi pas, admettons. Mais c'est vrai que spontanément, moi ça met pas en confiance et où tu massacres, tu joues un psychopathe qui sort de chez lui pour aller massacrer des gens, c'est un jeu qui a l'air, en tout cas à travers les deux bandes annonces qu'on a vues, très premier degré et qui s'est pris. Qui s'est fait pourrir, quoi. Alors que Hotline Miami bénéficie d'une hype incroyable. Et en fait, après avoir fini Hotline Miami, je vois bien que c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même proposition. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à mettre des mots sur la différence, quoi. C'est peut-être sur la distance, parce qu'il y a un côté quand même très arty, très radical au niveau de la mise en scène dans Hotline Miami, qui est beaucoup plus premier degré.
Et tu tues des méchants, non, dans Hotline Miami, non? A priori, enfin, des gens qu'on te demande
c'est
de
pas
tuer.
Clair. Ouais. C'est pas clair. Tu joues quand même, tu tues des méchants, mais tu les tues pas forcément pour de bonnes raisons, si tant est qu'il y en ait. C'est que tu joues quand même des psychopathes, tout qu'il arrive, quoi. Ouais, donc, moi, ça me, je sais que ça m'a il y a des moments où tu te dis, j'ai pas encore déterminé si je suis dérangé ou pas, mais ça me dérange potentiellement un peu.
Je crois que Hotline Miami pose un rapport un peu particulier à la violence, enfin, qui j'ai pas encore réussi à vraiment analyser, mais enfin, c'est vrai quand même que Hotline Miami nous met quand même toujours face à notre massacre à la fin du niveau. On est obligé de repasser sur les cadavres de tous les gens qu'on a tués. Des fois, on se rend compte qu'on a quand même tué beaucoup de gens, surtout dans celui-ci. Il y a quand même des écrans. J'ai pas fait le décompte, mais il y a parfois des écrans avec, je pense, une trentaine d'ennemis. C'est vrai qu'après, il y a des niveaux avec 6 écrans. Donc, quand on revient, quand on refait tout,
que la musique s'arrête,
on doit ressortir pour retourner à sa voiture.
C'est vrai qu'au final, on se rend compte
en
du cataclysme.
Quoi.
Ouais, on se rend compte du cataclysme qu'on a provoqué quand même. Enfin, c'est infernal, regardez.
Oui, et puis il y a ce rapport aussi au jeu, à ce qui nous fait jouer. Je pense que c'est entre Hotline Miami et Hatred, c'est ce qui sert de moteur au jeu, en fait. Hotline Miami, ce qui sert de moteur, on l'a dit, c'est la chorégraphie et la musique. En fait, c'est limite un jeu de danse, Hotline Miami, si on y pense. Chaque niveau est un pas de danse, certes, avec des fusils à pompe et des giclées de sang, mais c'est quelque chose, on apprend une chorégraphie pour progresser dans un niveau, et c'est ça qui nous fait avancer. On a envie d'apprendre la chorégraphie de chaque niveau, et on a envie de passer chaque niveau pour ça, parce que avec sa difficulté, parce que c'est un obstacle. Dans ce qu'on a vu d'Hatred, il y a forcément, c'est un jeu, donc forcément, il y a un défi. Mais ce qui nous fait, ce qui va faire jouer les gens à Hatred, alors sauf s'il s'agit finalement d'un très très bon jeu, j'en sais rien, mais bon, pour ce qu'on en a vu, c'est pas forcément très prometteur.
Qui n'est pas sorti donc. Hein.
C'est l'aspect transgressif qui va servir de moteur de jeu. Et je pense que l'aspect transgressif aujourd'hui dans Hotline Miami n'est pas, c'est pas ce qui fait, ce qui va faire jouer au jeu. Enfin, c'est, et je pense, enfin pour caricaturer entre guillemets, que un ado de 13 ans sera pas du tout intéressé par Hotline Miami. C'est trop dur, il y a trop de Eva préféré aller buter des gens dans Call of Duty. Je veux dire, si on veut buter des gens dans un jeu vidéo, il y a suffisamment de propositions qui existent pour se prendre le jeu le plus difficile de l'univers. Enfin, en tout cas, ouais, parlons d'ailleurs de ce niveau de difficulté. T'as parlé au niveau technique, Franz, que c'était un peu le premier était une sorte de bêta pour Hotline Miami 2, mais j'ai l'impression qu'au niveau de la difficulté, c'était aussi le cas. C'est...
Bah, écoute, je sais pas ce que t'en penses, Corentin, mais enfin, moi, en tout cas, c'est vrai qu'à partir du quatrième niveau, j'avais déjà l'impression, j'exagère peut-être, j'ai peut-être un ressenti un peu particulier, mais à partir du quatrième niveau, j'avais l'impression d'être à peu près au niveau de difficulté du troisième tiers du premier. Enfin, c'était un peu mon sentiment. Et moi, la fin, c'était vraiment, pour moi, c'était un enfer. Enfin, les 6-7 derniers niveaux du jeu ont été un enfer pour moi.
Je trouve que la difficulté est globalement assez étrangement réglée. C'est-à-dire que c'est effectivement, dès le début, des fois, t'as une mission très dure. À la fin, des fois, t'as des missions très faciles.
Alors oui, c'est vrai. Il y a tout un acte qui est très simple.
Mais je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un problème dans la succession des niveaux ou c'est juste un problème de gameplay. Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours un peu étonné avec Hotline Miami, c'est que le jeu est devenu génial par son esthétique, par sa musique, au final par ce qu'il en ressort, par le côté chorégraphique, mais qui est quasiment émergent en fait là-dedans. Oui. Je me demande si finalement, au début, les mecs ont pas juste fait un proto de mec qui peut. Tu peux faire quoi dans Hotline Miami ? Tu peux ramasser une arme, changer d'arme, tirer et bouger, quoi, c'est tout. T'as au milieu, t'as pas de bouton pour ouvrir les portes, y a pas de truc comme ça. C'est vraiment ultra simple. Et je trouve qu'il y avait un côté un peu basique du gameplay qui reste dans le 2, mais qui finalement est pas très grave parce qu'il y a quelque chose qui en émerge. Mais je me demande si c'est pas justement ce côté gameplay qui initialement m'a l'air assez bizarrement maîtrisé qui fait que la difficulté est. Et j'arrive avec beaucoup de questions, j'ai zéro réponse, mais.
Non, mais c'est vrai.
Et tu dois écrire un article pour JV, du coup.
Oui, c'est fait, mais ça m'a pas aidé à y voir plus clair.
Non, mais c'est vrai ce que tu soulèves là, c'est vrai qu'on le ressent quand même, c'est un défaut du 1 qui est resté pour le coup dans le 2, notamment. Dans le premier, on pouvait toujours, et on peut toujours le faire là dans pas mal de niveaux, en gros se mettre dans un couloir, tirer un coup de fusil à pompe, tout le monde arrive, on les dégomme tous et on nettoie une partie du niveau comme ça. C'est pas très bon pour le score, mais c'est relativement efficace dans pas mal de situations. Et c'est vrai que ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment cherché à corriger. En tout cas, on peut toujours. Moi, j'ai fait ça dans certains niveaux quand j'en avais ras-le-bol. Je faisais ça par faire ça.
Après, il y a les masques qui apportent, qui sont. Comme là, tu as des masques qui sont imposés, tu as quand même des gameplays qui sont un peu plus imposés. Ou qui, quand, par exemple, t'as des masques qui changent complètement la façon de jouer. Tu as un masque, par exemple, qui va te forcer à jouer avec deux persos, un qui a une tronçonneuse et un qui a un flingue. Et ça change absolument la façon de jouer. Donc là, le gameplay est un peu plus guidé. Mais c'est vrai que parfois, tu as l'impression. Il y a un côté un peu. Donc t'es tellement libre dans ton approche qu'on a l'impression que les mecs ont dit ils ont créé des niveaux, ils en lèchent les mecs et débrouillez-vous quoi, un peu. Et donc c'est d'où peut-être l'impression que parfois que la difficulté est mal réglée, mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas.
Hotline Miami 2 de Devolver sur PC actuellement, et puis je pense que suivra
PS3, PS4 Vita il me semble.
Directement. Ah oui, d'accord, sorti en même temps.
Au moins PS4 Vita. Ah c'est ils sont oui ils sont oui
normalement ils sont sortis. Moi, d'accord. J'ai pas vu hier sur PS4 quand je me suis connecté à ma PS4. Mais...
Non mais j'ai vu des gens passer effectivement sur Twitter qui jouaient sur PS4, ça existe.
Et formidable. Donc Hotline Miami 2, plein de musique, plein de morts. 15 euros, formidable. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine, je vous propose de vous prendre pour un demi-dieu, tentant d'accéder au sommet de l'Olympe grâce à Elysium, un jeu signé Brett Gilbert et Matthew Dunstan. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Alors, que vous propose Elysium ? Eh bien, c'est une espèce de genre de jeu de cartes, mais pas qu'avec des cartes. C'est très tendance à l'heure actuelle. En gros, vous avez des familles représentant des familles de dieux, de demi-dieux qui vont vous apporter certains pouvoirs et peut-être des points de victoire. Chaque manche, vous avez un lot de dieux sur la table et vous allez le renouveler toutes les manches et vous allez tenter de prendre possession de certaines de ces cartes avec des familles que vous allez tenter de compléter pour marquer des points de victoire et surtout, avant de marquer des points de victoire, tenter de combiner leurs pouvoirs. À votre tour, en gros, vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est choisir une carte au centre de la table, une carte à laquelle vous avez accès, car pour y accéder, il faut que vous ayez devant vous encore disponible un jeton de la couleur présente sur la carte en question. En gros, vous avez quatre couleurs. Vous avez du noir, du bleu, du vert et du rouge. Vous allez devoir prendre une carte, par exemple, avec un pion dessus, une couleur rouge et verte. Vous la prenez devant vous et vous allez devoir sacrifier l'un de ces quatre jetons. Et le tour d'après, vous n'aurez plus que trois jetons, donc accès à de moins en moins de cartes. L'idée globale, c'est que ces cartes, vous allez les poser devant vous. Vous allez avoir des pouvoirs, c'est-à-dire que ces cartes vont vous aider à améliorer vos choix à chaque tour, et puis vous allez pouvoir devoir les descendre dans votre Elyséum, c'est-à-dire une partie de votre place devant vous, dans laquelle vous allez les accumuler en famille de couleurs ou en famille de nombres, car ces cartes ont des numérotures. Enfin bref, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est extrêmement simple. Elyséum est un jeu très tendance, il est en train de tout déchirer, il est sorti pour le Festival International des Jeux de la Ville de Cannes il y a quelques jours, et il a tout défoncé, car c'est typiquement le jeu que tout le monde attend à l'heure actuelle, parce qu'il vous propose un jeu profond, intelligent, plein de combinaisons, avec de la réflexion, de la stratégie, de la tactique, de l'opportunisme et surtout une base de mécanique tellement évidente que tout le monde peut y accéder. En gros, n'importe qui pour jouer à Elysium. Vous pouvez jouer comme ça, bon, comme le tout venant, en faisant un peu n'importe quoi, mais vous allez vous en sortir quand même et vous pouvez y trouver de la profondeur, de la richesse, de l'intelligence et vous faire mal aux neurones. C'est extrêmement bien fait. Elyséum est un jeu Space Cowboy, j'ai oublié de le dire au début de la chronique. Les Space Cowboys, c'est des gens qui n'arrêtent pas de faire des jeux magnifiques, donc le travail d'illustration est juste splendide. Il y a 8 familles de dieux et c'est 8 illustrateurs différents qui les ont illustrés. Il y a des jetons, des machins, enfin bref, c'est juste magnifique, du bon gros matériel. Je vous rappelle le nom du jeu, Elyséum. C'est un jeu de Brett Gilbert et Matthew Dunstan. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes. Il vous en coûtera 45€, mais la boîte est extrêmement pleine. Vous en avez pour des heures de plaisir. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Je rappelle que tous les jeux dont Monsieur Fall parle dans Silence on joue sont testés en vidéo sur TrickTrack. C'est toujours assez marrant de retrouver les jeux qu'il a chroniqués et de les voir mis en scène avec Monsieur Fall lui-même et souvent, très souvent, les créateurs du jeu qui viennent jouer avec lui. C'est toujours des passages vachement bien. Franz, on va te laisser partir parce que tu dois finir d'écrire, je crois, un article sur Hotline Miami 2 pour le Libération de vendredi.
Exactement.
Placement, hein. Ouais. Je ne sais pas si vous admirez quand même le placement produit dans
Bien joué.
Merci pour ta première apparition dans Silence on joue. Ce ne sera sûrement pas la dernière. Et on va parler de... De la nuit blanche, cette nuit terrifiante ou d'un jour où je machin, il faut parler comme ça très grave, ça c'est, mais on va en parler. White Knight. I was lost. My mind didn't belong to me anymore. Trapped in the tumult of the accident. Where am I? Cette porte qui grince, vous le ressentez, ce frisson qui vous parcourt l'échine. White Knight est un jeu qui ne rigole pas. L'ambiance est noire et blanche. Pour le coup, on est en bichromie totale. Quelque chose qui a été déjà tenté au cinéma, notamment avec le film français, le film d'animation Renaissance. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était il y a quelques années. Voilà, c'est une bichromie, donc noir et blanc, tout sur le jeu de lumière, le jeu d'ombre, évidemment. On est à Boston, on est au sortir de la grande dépression américaine et un mec comme ça prend sa voiture, croit voir une jeune fille traverser la route sans se cogne contre un arbre, enfin un accident contre un arbre, et puis se retrouve près d'un manoir, un manoir qui a l'air très inquiétant. Je prends cette voie parce que voilà, il y a une sorte de premier degré assumé dans ce jeu qui
est très bien.
Voilà, bon, je vais d'abord te laisser la parole, Patrick. Je te sens.
J'adore ce jeu, c'est mon coup de cœur du moment. Allez, on va pas se mentir, hein, on est entre fans de Survival Horror, vous suivez tout ce qui se passe. Capcom a ressorti un Resident Evil Remaster Edition Plus Prime HD pour les nouvelles consoles. Vous ne l'avez pas forcément pris, parce que voilà, vous l'avez déjà fait sur PlayStation, sur Saturn, sur PC, sur 3DS, sur GameCube, sur Wii et d'autres machines. Bah, vous avez peut-être envie de voir d'autres choses, hein, d'avoir d'autres sources de Survival Horror et d'avoir un petit peu du frais. Enfin, si le terme s'y prête bien, mais en tout cas d'avoir quelque chose de neuf.
Et bah, du zombie frais, s'il vous plaît.
Alors, pas du zombie, attention, on n'est pas dans le zombie, c'est important. Alors, White Knight peut être une réponse, justement, parce que White Knight, il prend des Paris, je l'avais évoqué il y a une semaine ou deux, j'avais parlé de la date de sortie qui avait été avancée. Moi, ça fait des mois que je suis un petit peu ce titre. Très franchement, bah, les premiers visuels qui étaient sortis, justement, sur ce côté bicolore, noir et blanc, tranchant, m'avaient tout de suite scotché. Je m'étais dit, bon sang, c'est un parti pris, c'est osé de faire ça, enfin, faut y aller, franchement. Et une fois le jeu en main, moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Enfin, c'est vraiment un titre qui m'a... Je me suis vraiment laissé emmener dedans, alors pour plusieurs raisons, hein, c'est que je vais encore vous parler de vieux jeux. Voilà, paf, c'est comme ça. Moi, il m'a rappelé des très bonnes choses, ce titre. Évidemment, Alone in the Dark, c'est
un titre. Ah oui, quand même.
Évidemment. Non, mais évidemment. C'est même plus la peine d'en parler, parce que c'est un titre. Il aurait pu s'appeler Alone in the Dark, parce que c'est vraiment le fondamental du titre, et en termes de gameplay, il se rapproche beaucoup plus d'un Alone in the Dark du premier, de l'original, que d'un Resident Evil.
Carrément, ce qui crée une sorte de décalage aussi à un moment, parce que c'est vrai que l'overdose de caméra fixe en 2015, quand ton personnage change de plan,
c'est qualité. Attention, c'est un parti pris cinématographique. La caméra fixe aussi fait partie d'un choix de mise en scène qui marche très très bien ici.
Je t'interromps deux secondes, je crois que un des développeurs, Ronan Coiffec, si je ne m'abuse, qui a bossé, c'est le studio Awesome,
c'est ça.
Il avait bossé notamment sur des remakes et des reboots de Alone in the Dark.
Alors, je crois d'ailleurs un qui n'a pas été fait, je crois, qui n'est pas sorti, qui était très prometteur, qui je crois normalement avait la gestion de la physique notamment, et c'était un projet, je crois, qui n'est pas sorti, mm-hmm. et que pareil que j'avais suivi, qui malheureusement n'a pas vu le jour. Moi, il y a toute une tradition du film du jeu d'horreur français, évidemment, Alone in the Dark. En lançant le titre, alors j'ai déjà eu j'ai accroché sur l'ambiance que je trouve vraiment bien foutue. J'ai pensé à plein de titres, au manoir de Morteville, pareil, qui pareil nous projetait comme ça dans un univers hostile. On était un petit peu comme ça en personnage projeté. Je vois Erwan qui se cache derrière son micro. Il y a un titre que j'avais beaucoup en tête en jouant à White Knight, ce sont les jeux MacVentures. J'en parle régulièrement ici. Ce sont cette première génération de point and click qui était sortie sur Mac, et je pense notamment à un jeu qui s'appelle Uninvited, qui était vraiment un jeu horrifique, qui avait un pitch un peu sur le même départ, où on avait un accident de voiture, on se retrouvait comme ça, aller dans une maison qui était bardée de fantômes et de choses comme ça.
C'est vrai que c'est d'une originalité absolue.
Mais non, mais ce qui est génial, alors c'est marrant, c'est que justement, en voyant White Knight fonctionner, j'avais l'impression de voir un jeu MacVenture de la grande époque, donc c'était les ICOM simulations, qui était figé sur Mac, mais qui avait ce look noir et blanc très très, qui était très très symptomatique du Mac à l'époque, qui était très des graphismes ciselés, coupant, tranchant, et j'avais l'impression de voir ça animé sur une bécane d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Donc, alors, tu disais le pitch, donc années 30, on se retrouve comme ça projeté dans une maison. Suite à un accident, on va explorer cette maison, et la force du jeu pour moi, donc c'est évidemment ce visuel, ce look tranchant qui tout de suite le démarque de tout ce qu'on connaît dans le survival horror.
Et pour le coup, il faut signaler que on parle de vraie bichromie, soit c'est noir, soit c'est blanc, hein, c'est des aplats de noir et des aplats de blanc générés dynamiquement en fonction de la lumière que porte le personnage. Si le personnage allume une allumette, ça va éclairer comme ça des zones. Des zones de noir quasi complet à côté. Donc ça marche très très bien, et il faut signaler que c'est pas évident. C'est pas évident d'obtenir...
C'est pas facile, parce que ça peut très bête être illisible.
D'une manière automatique, en 3D, d'obtenir comme ça une sorte de cohérence où on comprend à peu près l'image. Alors forcément, il arrive parfois que ce soit un petit peu illisible.
Et c'est justement...
Que ce soit... Enfin, pour moi, ça me semble pas très voulu, mais je pense que c'est une contrainte. Enfin voilà, sont obligés d'être dans ce genre de truc, mais la majorité du temps, c'est plutôt très très bien rendu.
Parce que le pitch, c'est qu'on rentre dans cette maison, qu'on va explorer pièce par pièce avec pas mal de dangers à la clé. on n'a pas de source de lumière quasiment. C'est-à-dire qu'on a juste ces paquets d'allumettes qu'on allume un peu. Des fois, il y a une allumette qui ne s'allume pas. Donc, on est un peu en stress à compter ces allumettes, envie de t'en retrouver. On arrive parfois à allumer une lampe, mais bon, c'est toujours en rebranchant quelque chose, etc. Donc, on a peur du noir. C'est-à-dire que le noir, c'est simple. Hein. Si on se retrouve dans le noir sans allumette, on meurt en quelques secondes parce qu'on sent de toute façon qu'il y a une présence démoniaque qui nous tourne autour dès qu'on franchit la porte du jardin. Quasiment tout de suite, on comprend qu'on n'est pas seul et qu'on est vraiment épié et que ça va très mal se passer si on n'a pas de source de lumière sur soi. Et c'est là que je trouve que justement cette gestion de la lumière, elle est passionnante. Enfin, moi, je trouve qu'elle m'a, c'est ce qui m'a vraiment attrapé dans ce jeu, parce que je trouve que finalement, avec ces halos de lumière qu'on crée en allumant cette allumette qu'on a comme ça au bout des doigts et qu'on explore les pièces jamais à l'aise en allumant une lumière, en voyant tout, non. On est toujours sur un petit halo de lumière autour de nous et on a un rapport quasi tactile au décor. C'est-à-dire qu'on découvre chaque pièce toujours par morceaux. C'est-à-dire qu'on a, il nous faut un certain temps pour redessiner la géographie d'une pièce ou de l'imbrication des pièces entre elles. Et ça, je trouve que, voilà, on éclaire comme ça des morceaux de pièces qu'on explore. Et finalement, ce qui est fort, c'est qu'on arrive à craindre ce que le faisceau lumineux autour de nous va découvrir. C'est que ce soit un meuble où il y a souvent des pièces, on est dans le noir, mais il y a des formes qui se découpent, il y a des arêtes. Je parlais de ces graphismes tranchants, coupés, parce qu'on est sur des ruptures noir-blanc. Et ce qui fait qu'on a souvent des ombres, des choses comme ça qu'on va balafrer comme ça d'un coup de lumière. Et c'est, voilà, on a toujours peur qu'on va.
Non, j'y repense, je fais juste une parenthèse. Il y avait eu ce jeu sur Wii, ce jeu un peu vieux.
Mad World
qui était aussi en bichromie.
Bien sûr, qui était en bichromie et qui était dans un autre style.
Oui, tout à fait. Il me tournait en.
Qui avait exactement. Alors, j'ai beaucoup lu, on parle beaucoup d'Alfred Hitchcock comme source. Oui, évidemment, on pense à la bicoque de Psychose, évidemment. Oui. Moi, j'ai beaucoup plus pensé en jouant au jeu à tout ce qu'a fait Jacques Tourneur, surtout ce qui est hors-champ, la crainte du hors-champ, de ce qu'on ne voit pas à l'écran. Moi, c'est ce qui est vraiment...
C'est quand même la base du survival horror depuis, justement, Alone in the Dark, le hors-champ.
Exactement, crainte...
Cette force de la caméra fixe.
Tu parlais de cette caméra fixe, et justement, on craint toujours ce qu'on va voir. Moi, j'ai pensé à la féline de Tourneur, beaucoup au Rendez-vous avec la peur, le fameux film de Tourneur qui justement parle d'une menace surnaturelle qui tourne autour d'Anna Andrews, l'acteur, pendant tout le film, où pareil, on voit quasiment rien pendant tout le film, mais on est tétanisé pour lui. Et finalement, la peur est dans la suggestion. Et je trouve que dans White Knight, ça marche vraiment bien, puisque finalement, la peur est dans le noir, parce que ce qu'on voit pas, c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Ouais. Et finalement, même ce qu'on voit devient effrayant, parce qu'il y a ces découpes de lumière, de noir, de blanc, où finalement tout devient quelque part agressif au niveau.
Moi, sur cette caméra fixe, j'ai un bémol à amener, c'est pas forcément sur l'utilisation de la caméra fixe qui est forcément, enfin, dans le survival, c'est le graal, la caméra fixe, parce que forcément tu vois pas ce qu'il y a quand le couloir il tourne, quand ton personnage arrive au bout du couloir, lui il va voir et pas toi en tant que joueur, donc ça génère un stress, cette caméra fixe dans le survival horror qui est génial. C'est qu'il y en a une overdose, entre guillemets, il y a une overdose de caméra fixe. Je m'explique. À l'époque de Alone in the Dark et des autres survival type Resident Evil, le premier ou Silent Hill, eh ben en fait les décors des caméras fixes c'était des décors précalculés.
Ouais,
en fait ils en précalculaient pas tant que ça, si tu veux, ils choisissaient avec parcimonie où étaient placées les caméras parce que le joueur allait être confronté à cette vue-là et pas une autre. Et là le jeu est totalement en 3D, on est encore en 2015, ils n'ont pas fait de décor précalculé, ils ont juste fixé des caméras. Et j'ai l'impression que le fait qu'ils n'aient pas à générer ces décors précalculés, eh ben, ils les ont un peu fixés comme ça, tiens, on va en mettre une là, et puis une là, et puis une là. Et j'ai l'impression que c'est, il n'y a pas le même choix radical des caméras. Je trouve, quand tu es dans une pièce, par exemple, quand tu avances dans une pièce, il arrive que pour une même pièce, tu aies 5 ou 6 caméras différentes. Mais moi, ça me semble beaucoup trop. Dans Alone in the Dark, il y en avait 3 maximum par pièce. Tu passais, t'avais l'entrée, puis tu avançais dans la pièce, t'avais une deuxième vue, puis à un moment, t'arrivais à une porte et t'avais une troisième vue. Et là, le problème, c'est que bah, tu avances et puis tu changes de caméra, tu refais un pas en arrière, tu rechanges. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, le fait que tous les décors, bah, c'était pas du précalculé, c'est de la 3D comme on fait aujourd'hui en 2015. Et bah, les gens, ils ont eu, les créateurs donc, du studio, ils ont eu juste à placer des caméras et ils en ont placé, à mon goût, en tout cas, un peu trop. Du coup, c'est, vu qu'en plus, on est en commande absolue, enfin, sur le clavier, après, je ne sais pas si ça ne se joue pas, sans doute, mais on est en, et que les commandes changent en fonction de là où est la caméra, enfin, c'est vraiment, pour le coup, il y a un côté où on lutte, on se retrouve un peu à lutter contre le jeu avec.
Moi, au contraire, je trouve que les changements de caméra, ils font partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est que justement, ce côté. Très moi, je trouve qu'il a un rapport très particulier à la géographie, le jeu, la géographie des lieux. Et justement, cette multiplicité des mouvements de caméra, au contraire, je trouve que ça contribue à ce que chaque recoin de pièce soit inquiétant.
Parce que, moi, justement, je suis pas d'accord.
Moi, je trouve que ça fonctionne justement bien parce que on n'est jamais sûr de ce qu'on va voir à l'autre bout d'une pièce. Et finalement, il y a vraiment des passages que j'ai trouvés qui m'ont fait froid dans le dos, vraiment, parce que on ne gère jamais complètement une pièce. C'est-à-dire que même quand on arrive à allumer une lampe, on n'a jamais quasiment la totalité de la pièce qui est éclairée. Et combien de fois, moi, j'ai vu du coin de l'œil sur un coin de caméra quelque chose de mouvant. Parce que, pour situer, on a quand même des esprits frappeurs qui nous tournent autour et qui sont plutôt agressifs quand on tombe.
Je me demandais, parce que moi, je crois que c'était juste une maison vide.
Non, elle n'est pas vide. En fait, très vite, on se rend compte qu'il y a des vraies entités.
Genre Poltergeist.
Ouais, Poltergeist, mais qui se matérialisent sous une forme d'ombre qui nous court après quand on passe à peu trop près d'eux, bah hop, ils nous captent, ils nous calculent et hop, ils nous courent après.
Et là, on meurt.
C'est-à-dire que c'est du die and retry. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de combat et ça, c'est très. Je fais autant ça qu'un système de combat mal foutu. Si on se fait capter, on a une chance de courir si on se débrouille bien, qu'on connaît assez bien justement cette géographie des pièces. C'est-à-dire qu'il faut vite savoir.
Je suis pas d'accord. Écoute, je suis pas d'accord. La géographie des pièces avec les caméras fixes, et bah, t'en avais trois et tu voyais ta géographie. Je trouve que. Je suis d'accord avec toi, c'est que ça a des avantages, ces caméras fixes en survival, mais il y a un moment où quand il y en a trop, bah ça fait brouillon, quoi. Toi, tu vois ça comme un avantage, une sorte de grammaire utilisée par le jeu. Je pense que c'est un peu brouillon.
Après, je suis d'accord qu'il y a des difficultés parfois de lecture justement quand on a une pièce un petit peu plus. Plus longue, on a plus de mal à se diriger quand la caméra est éloignée. Pour moi, ça fait vraiment partie du trip Survival Horror. Ouais. Et là, on est vraiment sur un titre qui revient aux racines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Survival Horror, c'est un peu mélangé à toutes les sauces. Les derniers Resident Evil qui sont sortis, c'est du jeu d'action troisième personne. On sait très bien que ce genre a été complètement remis à plat, questionné, etc. Là, on tient un titre qui revient aux fondamentaux. Aux fondamentaux, on n'a pas d'armes. On est en stress tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'a plus de lampe, on est vite en stress. Moi, j'ai ressenti des choses que j'avais pas ressenties depuis longtemps dans un titre du genre. Je trouve que vraiment, avec un système de sauvegarde qui est assez rigide aussi, c'est-à-dire qu'il faut trouver
les fauteuils,
l'illuminer. Et voilà, on doit gérer ses sauvegardes aussi. Enfin, vraiment, c'est un vrai retour aux racines du genre et de pas avoir de boss etc. Enfin voilà, moi je trouve que c'est plutôt
ce qui est aussi très malin, c'est justement d'avoir remplacé les munitions qui sont la ressource rare des survival horror par une autre ressource rare qui sont les allumettes.
Donc, et là on les compte,
il y a des choses assez malines dans White Knight. Mon gros problème de White Knight, alors j'ai parlé des caméras, j'ai parlé de l'aspect parfois un peu brouillon, mon énorme problème de White Knight, c'est que je me marre.
Et je sais pas comment tu fais.
C'est un souci avec le jeu en noir et blanc.
Ah oui, mais attends, Erwan, tu y joues où exactement? En pleine journée
Attention, mais même de nuit.
j'y joue de nuit, dans le noir.
Non, ce serait la même chose.
Non.
Parce que alors, White Knight, c'est un jeu premier degré, mais premier degré jusqu'au bout, du bout. C'est-à-dire qu'on a le droit à la voix off qu'on a entendue, alors avec une version française, c'est un studio français, donc avec une version française, mais la voix off masculine super grave. Qui te raconte des choses tragiques et des choses graves, machin,
et qui commence.
J'étais dans un bar, j'ai pris mon dernier verre, j'étais bourré, j'ai rejoint ma voiture, il pleuvait, machin.
C'est très très bien.
Il y a un moment, j'aime
bien justement les codes.
Il y a un moment, ok, t'as l'intro qui est comme ça, et puis quand il continue, et j'étais blessé, j'espérais que cette fille n'était pas morte, je cherchais avec désespérément ses traces dans l'herbe, machin. Et il y a un moment, tu te marres. Je suis désolé. Désolé auprès des créateurs. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Il y a un moment, parce qu'en plus, évidemment, chaque cutscene, le mec, il a la voix off, parce que alors, elle est. Et il y a ce côté.
Et ce sont les codes du film d'époque.
Non. Même les films noirs, on avait le droit d'avoir un peu d'humour. On est dans cette overdose. Après, c'est pas quelque chose qui est forcément désagréable. Il y a la même qu'on retrouve notamment dans les Max Payne. Max Payne, j'adore ce côté. côté film noir surjoué premier degré, c'est un choix et je le respecte.
Il y a une écriture dans Max Payne aussi quand même qui fait que
voilà, là l'écriture est pas mauvaise, mais elle est pas transcendante dans le sens
là, dans le
sens où comment dire
il y a pas que ces monologues qui se font évidemment clichés, mais c'est fait pour. Bah, je pense que c'est pour référer à un genre de film, etc., à tout un univers et à une époque. Il y a aussi toute l'écriture dans le jeu, parce qu'au fil des découvertes, il y a beaucoup de choses à lire en fait dans le jeu. Il y a beaucoup de matériel qu'on découvre et qui va peu à peu nous apprendre toute l'histoire du lieu, des familles qui ont vécu là, etc. Voilà, c'est pas une coquille vide ce titre. Voilà.
Ouais. White Knight chez Activision.
Moi j'adore, et vraiment visuel, enfin une réalisation que je trouve hallucinante.
Moi, des fois, je trouve dommage de me marrer, mais bon, hein, ça, c'est peut-être mon mauvais goût. Enfin, je sais pas. Je rigole trop facilement, je suis trop bon public parfois. C'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Petite annonce, il n'y aura pas de Silence on joue la semaine prochaine. Pour une fois, je préviens à l'avance. Oui, je prends des vacances. Je prends des vacances. Et donc, on revient dans deux semaines, mais avant ça, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Corentin?
Alors moi, j'ai commencé à regarder la saison 3 de House of Cards. Je vais pas le dire, je vais pas spoiler.
Non mais bof ou pas bof?
Bien sûr. Écoute, moi je trouve ça très bien.
Ah bon? Parce que moi j'ai eu des bofs quand même, hein. J'ai vu des bofs passer. Hein.
Mais je pense que c'est parce qu'ils avaient peut-être sans doute pas pensé à la même chose que moi de la saison 2. C'est-à-dire que House of Cards, donc, c'est l'histoire donc, du parcours d'un politicien américain qui arrive, spoiler...
Spoil saison 2. Spoil pas de saison 2.
Bon, il arrive assez haut dans la hiérarchie politique américaine et ça raconte son ascension. Et la saison 2, j'ai trouvé ça tellement ardu que ça en était un peu pénible. Vraiment, ça prenait des dimensions géopolitiques incroyables. Fallait suivre les histoires de business, de machin, au niveau des institutions américaines, fallait être un minimum calé. J'ai trouvé ça qu'à un moment donné, c'était tellement fidèle probablement à une certaine réalité que j'ai trouvé ça un peu laborieux, un peu compliqué à suivre. Là, le 3, on est revenu à des enjeux
fondamentaux.
J'ai encore une fois un collègue qui me disait, en fait, c'est l'histoire de ces Jean-François Copé, François Fillon, l'UMP, quoi, c'est ça, on y est, quoi. Et donc, je peux m'y attacher. Il y a des personnages qui sont pas forcément des personnages historiques connus, mais enfin, historiques qui existent réellement connus, mais c'est des personnages, on devine bien à travers, on voit bien les références et tout ça. Donc voilà, ça, j'ai plus les clés que la saison 2 qui était très américano-américaine et qui, en fait, m'avait un peu échappé.
Patrick,
Là, je vais être obligé de tricher cette semaine. Ah. Quand je ne joue pas, je joue encore. Et là, en ce moment, je redécouvre les premiers Ace Attorney, Phoenix Wright, et que je trouve vraiment excellentissime. Je me suis replongé dans.
C'est vrai qu'on n'en refait pas la critique ici, mais c'était.
C'est ressorti sur 3DS il n'y a pas longtemps, bon. Et voilà. Enfin, je trouve que c'est vraiment excellentissime. Voilà, une très belle série.
Et moi, quand je ne joue pas, je pars en mode virtuel, enfin réalité virtuelle. C'est un peu mon sujet du moment. Enfin, ça fait un peu 2 mois que c'est mon sujet parce que j'avais prévu de sortir un gros événement dans Libération pour le 8 janvier. Bizarrement, il a sauté et ça va ressortir. C'est ce week-end. Hein. Normalement, il y a un gros événement. Alors, si ça tient ou ce sera le week-end d'après sur la réalité virtuelle, ce qui fait que je suis un peu à fond dedans. Et notamment, j'ai vu Stranger. Alors, j'ai vu c'est sur Galaxy, c'est sur Gear VR de Samsung. Hein, c'est un des casques qui va sortir en France cette semaine. J'ai vu Strangers with Patrick Watson, qui est en fait un petit film qui dure 5 minutes où, en fait, avec ton casque, tu es dans le studio de Patrick Watson avec son piano, son ordinateur qui sort les beats et tout ça. Et en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il y a un potentiel de fou, quoi, parce que tu es là avec un mec, c'est la prise de vue réelle, et il est juste là à jouer à côté de toi, et il se retourne vers toi, et quand il te regarde dans les yeux, ça fait oh, pourquoi tu me regardes, s'il te plaît, je ne suis pas là, fais comme si j'étais pas là. Et on se rend compte comme ça avec des choses. On sait que Oculus sort son Story Studio où ils vont faire aussi de la fiction en réalité virtuelle, et voilà. Et j'ai très très hâte de la fin d'année et du début de l'année prochaine pour qu'on puisse tous découvrir ça.
White Knight en réalité virtuelle comme ça, ça pourrait
pas sûr,
ça, ah, si.
Un peu flippant. Bon, ok. Nous, on se retrouve donc dans 2 semaines ici même pour parler de jeux vidéo. Ciao.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.